Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et pour la rubrique Vivre à Lausanne, ce soir, Samuel a rencontré Antonella Verdiani. Cette pédagogue et docteur en sciences de l'éducation a travaillé 18 ans à l'UNESCO. Elle est récemment venue à Lausanne pour donner une conférence au Casino de Montbenon intitulée « Inventer une nouvelle éducation ». Elle a aussi animé par la même occasion à Pôle Sud ici un atelier « Découvrir son trésor intérieur ». Samuel en a profité pour l'interviewer juste avant cette conférence. Le credo d'Antonella Verdiani est que la joie permette de favoriser l'apprentissage. Selon elle, si l'école permet aux enfants de rester en lien avec leur joie, 90% du processus d'apprentissage est donc déjà là. Dans le système scolaire basé sur la compétition qui soutient un système économique lui-même basé sur la compétition, quelle place reste-t-il pour la pédagogie dite active ? À l'heure où de plus en plus d'écoles différentes se créent en Suisse, on a voulu en savoir un petit peu plus à ce sujet.
Donc Antonella Verdiani, vous avez travaillé pendant 18 ans à l'UNESCO comme spécialiste des programmes de l'éducation. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur les éducations alternatives, notamment « Renouer avec la joie de l'enfance » qui est paru en 2017 chez Erol. Un des ateliers que vous animez s'intitule « Éduquer à la joie ». On n'a pas tellement l'habitude d'associer l'éducation et la joie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux termes? Comment vous les associez?
En réalité, d'abord, on ne peut pas éduquer à la joie parce qu'on l'a déjà, cette joie. Ou bien on peut éduquer dans la joie, par la joie, éventuellement à retrouver la joie, parce que je pars du principe que c'est juste un moteur qui nous pousse à nous développer, à évoluer. Et c'est un don que nous avons depuis la naissance. Et donc, éduquer au fait de ne pas perdre ça, ça serait déjà commencer par respecter les enfants. Qui naissent avec cette joie de façon, c'est une joie spontanée, c'est une joie naturelle, c'est une joie qui les enfants plus ou moins, mais disons qu'ils en sont tous assez, ils la reçoivent en tant que dot, on peut dire, quelque chose qui est un cadeau, un trésor à la naissance.
Et à un moment donné, cette joie, elle se perd. Est-ce que c'est l'éducation, l'école? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'âge?
Ce qui se passe, c'est que petit à petit, on commence à faire des choses. Imaginez qu'on devient sérieux, qu'il faut avoir rentré dans un cadre, qu'il faut respecter les programmes, qu'il faut passer les examens, qu'il faut réussir. Et petit à petit, on devient des personnes parfois tristes aussi. Et ce don, il est perdu, il s'étiole, il s'oublie. Alors moi, je dis souvent, quand j'anime les stages, il faut penser que si vous avez oublié la joie, elle ne vous a pas oublié. Et qu'elle est quand même, elle fait partie de notre nature humaine. Cet enthousiasme de vie. Il y a quelqu'un que je connais, s'appelle André Stern, qui est le fils d'Arnaud Stern, qui lui parle d'enthousiasme. Il dit, il a des preuves scientifiques à la main, il dit dès qu'il y a l'enthousiasme, on met le turbo pour apprendre parce que ça nous intéresse et ça nous plaît, ça nous attire et nous faisons aucun effort pour ça. Et la même chose pour la joie. Donc dès qu'il y a vraiment cette envie, ce plaisir qui se développe à partir du moment où on est en contact avec ce qui nous intéresse, ce qui nous appelle, c'est presque fait, c'est presque 90% du processus d'apprentissage qui est là.
Vous dites que le système traditionnel est une école qui exclut. Alors, qui l'école exclut-elle et comment se fait-il que cette école qui est censée inclure et puis éduquer exclut les élèves?
Le modèle de l'institution actuelle dans les mondes occidentaux, dans le monde occidental, c'est un modèle qui considère que le savoir est au centre et que donc les enfants, les élèves, les individus doivent s'adapter à ce savoir qui de toute façon il est là, il est au centre et on doit faire des efforts pour acquérir ce savoir. Toute la différence entre ce type de vision d'éducation et la vision qui est portée par les pédagogies actives est qu'au centre, on ne met pas le savoir, mais on met l'enfant, on met l'individu. Et donc, il ne s'agit pas d'en faire un enfant roi, surtout quand on a affaire avec les petits, mais il s'agit de considérer toutes les dimensions de l'enfant, y compris la dimension spirituelle, qui pour moi est très importante, pour que ces dimensions se développent et que le savoir soit acquis à partir de son identité à lui.
Dans les formes d'intelligence qui sont un petit peu développées comme ça dans l'école traditionnelle, on insiste beaucoup sur l'intelligence linguistique, logico-mathématique. Quelles sont les autres formes d'intelligence qui, selon vous, doivent être aussi nourries pour que une éducation soit réussie?
Alors, ce type de pédagogie qu'on peut appeler pédagogie active, qu'on a longtemps appelé des pédagogies différentes ou alternatives, mais ce sont des pédagogies actives parce qu'elles activent toutes ces dimensions-là. Elles activent beaucoup aussi cette dimension de la créativité qui est soutenue par les arts, les arts plastiques, par tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est aussi la capacité de l'empathie. Donc, c'est une intelligence aussi affective, l'intelligence du cœur. Et ce sont des choses que les grands pédagogues comme Montessori, Freinet et Steiner avaient découvert il y a plus d'un siècle et qu'ont du mal encore à rentrer dans le système public, et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si, j'ai une lecture, on va dire, politique de ça. Puisque si on change l'école, on change vraiment la vision qui est sous-jacente à l'institution de l'école. C'est-à-dire l'école, elle est là pour soutenir ce système qui est là aujourd'hui, les systèmes économiques, la vision du monde qui est basée sur la compétition. Donc nous avons encore aujourd'hui une école qui est basée sur la compétition. Et donc qui sera le plus fort, ce sera le gagnant. Et voilà, nous avons aujourd'hui un monde qui est le résultat d'une culture de guerre. Ce n'est pas surtout un résultat d'une culture de paix et de coopération.
C'est quoi pour vous la réussite?
C'est cette fameuse phrase qui dit « j'ai réussi ma vie » ou « j'ai réussi dans ma vie ». Donc aujourd'hui, on cherche à réussir dans la vie, c'est-à-dire devenir quelqu'un, avoir le diplôme, voilà, si on parle d'école et tous les cursus académiques, avoir du succès, avoir. Hein. Donc c'est beaucoup basé sur l'avoir, très peu sur l'être. Alors que réussir sa vie, c'est autre chose. C'est réussir soi-même en tant qu'être humain. Et donc, c'est pas le avoir, c'est l'être, c'est la dimension de l'être qui est là. C'est là toute la différence.
Et vous, votre expérience de l'école, c'était quoi?
J'ai beaucoup souffert, surtout au lycée, parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire... À étudier, surtout en étant un L, parce que littéraire, c'était du latin et du grec, que j'ai oublié, mais le lendemain où j'ai passé l'examen. Et j'avais 13, 14, 15 ans, et je me posais la question, mais pourquoi je fais ça? Et tout ça, c'était dans un climat de compétition, vraiment, et de peur. C'était la peur. Et je me posais la question, mais pourquoi faut-il avoir peur d'aller à l'école? Tout était basé sur ça. Malheureusement, il y en a encore. Hein.
On voit qu'effectivement, le bon élève dans un système classique, c'est celui qui est le meilleur dans la compétition, qui a la meilleure note. Dans un système d'une éducation active, quelle est la définition d'un bon élève?
Il n'y a pas de bon élève. Je pense qu'ils sont tous bons. Et d'ailleurs, il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, c'est un des piliers, par exemple, de la pédagogie Montessori, où le maître, le professeur des écoles, d'abord, ne s'appelle pas maître ou maîtresse. C'est un accompagnateur. Et il n'y a aucun jugement pour l'élève. Tu as été bon, tu as été mauvais. Et quand on commence à juger dès la petite enfance, mais alors, après, on crée des traumatismes qui peuvent sembler très légers ou anodins, ou voilà, puisque tout le monde passe par là. Mais il n'y a rien de normal dans tout ça.
Outre cette conformité à une norme, l'enfance, vous dites, se déresponsabilise dans le système classique.
Il n'est pas du tout acteur. Il n'est pas du tout responsable parce qu'on lui dit de faire des choses. Enfin, moi, j'ai étudié avec quelqu'un qui est décédé, ça ne fait pas longtemps. C'était un grand professeur à l'Université de Paris 8, Sciences d'Éducation. Lui, il nous parlait de la figure, du rôle de l'enseignant comme celui qui sait qui ne sait pas. Hein. Et il découvre en même temps que l'élève. Il découvre en même temps qu'il fait ce chemin. Et il est bien sûr là comme étant aussi une personne de référence mais qui n'est pas là pour d'abord enfoncer dans la tête des élèves qui sont connus pour ne rien savoir, voilà, parce que la tête elle est vide, le savoir forcer à qu'il se remplisse, mais il est là pour faire en sorte que la curiosité jaillisse, quoi. Et c'est vraiment un travail vraiment d'accouchement. C'est comme Socrate, voilà. C'est vraiment la maïeutique, voilà. ce qui est vraiment le sens aussi du mot éducare et d'ucere, voilà.
Vous avez tout à l'heure cité André Stern, qui est le fils du grand pédagogue Arnaud Stern, qui a écrit « Je ne suis pas allé à l'école ». Alors lui n'était pas à l'école, mais éduqué par un pédagogue, ce qui fausse un petit peu la perspective. Mais qu'est-ce que vous pensez ?
Maîtresse d'école, donc ça aide.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement du « unschooling » ?
Alors, comme le mouvement « unschooling », ça veut dire la non-école, il y a aussi tout ce mouvement des écoles démocratiques. Ce sont aussi des expériences aussi à observer. Qu'est-ce que j'en pense ? En tant que chercheuse, je peux être vraiment dans une posture un peu distante et j'observe avec intérêt. En tant que parent, pas tout le monde peut se permettre ça. Là, vous avez cité André, mais André, bon, bien sûr, ne serait-ce que le contexte où il habitait était éducatif, quoi. Avec des sollicitations, des artistes qui venaient, voilà, des voyages, des langues parlées à la maison. Donc évidemment qu'il y avait tout ce contexte qui était là et qui le stimulait. Alors malheureusement, ce n'est pas comme ça dans toutes les familles. Mais je pense que c'est quand même, à mon avis, c'est ce qu'il faudrait encourager, c'est la possibilité qu'il y ait aussi des expériences de ce type-là. Et qu'il soit accompagné, qu'il soit facilité, voilà, je pense que ça mériterait aussi d'être suivi, même du point de vue des sciences et de l'éducation. Qu'il y ait aussi des recherches sur ça, qui démontrent aussi qu'est-ce que l'enfant a appris ou n'a pas appris, selon les paramètres qui sont les paramètres de l'éducation nationale.
Alors dans les sciences de l'éducation, il y a des recherches qui sont menées, notamment avec Céline Alvarez, qui a mené des recherches dans un cadre classique d'éducation nationale. On sent une volonté de faire changer les choses sur le plan de l'éducation. Comment vous percevez-vous, en tant qu'observatrice, en tant que chercheuse, cette volonté de changer un petit peu la donne et les lignes frontières dans l'éducation?
Ce que je peux observer d'abord, très, très, très en général, c'est qu'il y a une mouvance aujourd'hui qui va vers ce renouveau dans tous les domaines, y compris le domaine de l'éducation. Donc on est en train d'expérimenter, de faire des expériences de nouvelles façons d'habiter ensemble, de nouvelles façons de manger, de nouvelles façons de cultiver. Donc l'agriculture, il y a la permaculture. Et si je fais un parallèle dans l'éducation, il y a vraiment les écoles démocratiques. C'est un peu comme la permaculture. C'est aller chercher aussi, monter des écoles bio quelque part, hein, qui respectent aussi la vie, parce que bio, c'est la vie. Hein. Là aussi, c'est du grec. Donc finalement,
il reste quand même quelque chose.
L'étymologie, j'adore. Il faudrait observer ça. Non seulement observer, mais favoriser aussi cet élan, ces besoins de renouveau qui vient beaucoup de la société civile. C'est pour ça qu'on a créé le mouvement du printemps éducation en France et qu'il y a aussi une antenne en Suisse. Donc, on réunit ces individus et ces associations et ces écoles qui sont là et qui portent effectivement ce flambeau de renouveau. Donc, ça existe, ça augmente. En France, on dit qu'il y a à peu près entre 35 et 40 écoles qui se créent chaque année, de nouvelles écoles. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien en meurent. Mais il y en a quand même, il y a une explosion de cette création d'écoles, quoi. C'est des parents qui disent « j'en peux plus », des enseignants qui disent aussi « je vais sortir du système ». Alors, soit on fait le choix de sortir du système et on fait quelque chose de nouveau, soit on décide de rester, et c'est là que vous avez, par exemple, toutes les réunions, les conférences de Céline Alvarez qui sont pleines d'enseignants d'éducation nationale. L'institution a le devoir d'écouter, d'observer ce phénomène et d'agir. Parce que sinon, il va y avoir de plus en plus des départs, quoi, des gens qui cherchent d'autres solutions alternatives.
Est-ce que vous évoquez les professeurs qui eux-mêmes font la demande d'une autre approche pédagogique? Est-ce que du
Oui,
coup,
qui vont
ce
se
mouvement
former.
venant de l'intérieur, est-ce que ça vous donne espoir que
Oui.
le système un peu monolithique puisse se transformer de l'intérieur aussi?
Très, très monolithique, bien sûr. Oui, ça me donne espoir.
Donc bientôt Montessori et Steiner dans l'école traditionnelle alors.
Un jour, ces pédagogies-là pourront rentrer dans le système, elles pourront devenir accessibles à tout le monde. Je ne trouve pas juste que pour se payer une école Montessori, on doit débourser, en Suisse c'est beaucoup plus cher que dans d'autres pays, mais minimum 1 000 euros par mois. Donc, ce n'est pas admissible, alors que Montessori, Maria Montessori, avait fait une école pour les enfants des ouvriers. Steiner, c'est la même chose. Donc, pourquoi faut-il que ça devienne un luxe et pourquoi ces pédagogies-là ne reviennent pas vraiment à leurs origines, c'est-à-dire favoriser les enfants. D'abord, les enfants, ils sont tous pareils et n'est pas s'adresser uniquement à l'élite. Si vous commencez par changer aussi et que vous introduisez des pédagogies, vous ne pouvez pas juste introduire quelques petits outils. Il faut transformer donc l'institution. Ça va transformer l'institution et la vision de l'école. Et donc un système.
Merci beaucoup pour cet entretien, Antonella Verdiani.
Je vous en prie. À bientôt peut-être.
Avec plaisir.
Et merci à Samuel.